Bonjour Marieke Patin.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la relation franco-allemande dont nous allons parler dans un instant. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur un courrier incendiaire envoyé avant-hier par des membres éminents du SPD, le parti du chancelier Olaf Scholz. Ces membres qui lui reprochent une politique ambiguë vis-à-vis de la Russie et de mettre en danger la sécurité européenne. On n'en parle pas beaucoup en France, mais on en parle pas mal en Allemagne.
On peut revenir aux années 70 et à la politique de Willy Brandt, la Ostpolitik, le rapprochement donc avec ses voisins de l'Est, donc la Pologne, mais également l'Union soviétique. Et c'est de là que viennent les liens étroits entre l'Allemagne et la Russie, le SPD et la Russie plus particulièrement. Et donc effectivement, l'Allemagne a fait un certain nombre de choix dans le passé qui aujourd'hui lui sont reprochés. On se souvient des gazoducs, Nord Stream notamment. Nord Stream 2 a été décidé après l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Alors c'est pas une erreur uniquement qui incombe au SPD, mais le SPD était également au gouvernement. Et Frank-Walter Steinmeier, qui aujourd'hui est président de la République fédérale d'Allemagne, à l'époque était ministre des Affaires étrangères, il a fait son mea culpa en disant que peut-être que l'Allemagne dans le passé, et lui en faisait partie du gouvernement allemand, n'a pas été assez prudent, a été trop naïf. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'Allemagne bute. On a évidemment aussi sur la question de la sécurité et de la défense une volonté d'Olaf Scholz de ne pas escalader le conflit, de ne pas franchir des lignes rouges, de ne pas devenir co-belligérant.
C'est pour ça qu'on lui dit vous êtes un peu ambigu vis-à-vis de la Russie.
Oui, donc l'envoi de Taurus par exemple, donc de missiles de croisière avec une portée de 500 km qui pourrait toucher la Russie en profondeur, eh bien il a été catégorique là-dessus en disant non, on n'enverra pas de missiles de croisière Taurus en Ukraine, alors que le FDP et les Verts, qui sont également en coalition dans le gouvernement, sont pour l'envoi de Taurus. Alors effectivement, il y a eu un débat dans la commission défense au Bundestag pour expliquer un peu les implications techniques de l'envoi de Taurus, et donc un certain nombre d'informations ont fuité. Donc si jamais on envoie des Taurus, ça impliquerait la présence de soldats allemands en Ukraine, et c'est ce que veut éviter à tout prix Olaf Scholz. Donc voilà, on a vraiment des visions très diverses aussi au sein de la coalition. Rolf Mützenich, qui est le chef du groupe du SPD, il y a quelques semaines, a dit qu'il fallait geler le conflit. Certains y ont entendu un apaisement par rapport à la Russie. Alors Olaf Scholz a soutenu Rolf Mützenich en disant il n'y a pas de doute sur le soutien de Rolf Mützenich à l'Ukraine jusqu'à la victoire, autant qu'il le faut, autant que cela soit nécessaire, mais on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de nervosité au sein du gouvernement.
Alors, j'en viens à la relation franco-allemande, Marieke Patin. Quelque chose a changé, c'est plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je pense qu'on a deux personnalités différentes, Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Il faut trouver un modus operandi dans la relation franco-allemande. On a Olaf Scholz qui est plutôt dans la retenue, Emmanuel Macron qui est plutôt quelqu'un de disruptif, c'est comme ça qu'il est perçu en tout cas en Allemagne. Donc il y a eu un certain nombre de propos, par exemple quand il a parlé de l'état de mort cérébrale qui avait causé pas mal de remous en Allemagne en 2019.
La mort cérébrale de l'OTAN.
Mais aussi en février, lorsqu'il a dit que l'envoi de troupes en Ukraine n'était pas à exclure. Donc voilà un certain nombre de propos qui, en tout cas, en Allemagne, ont causé des réactions. Donc Olaf Scholz qui s'est dépêché pour dire non, en fait, on ne va pas envoyer de troupes en Ukraine. Donc il y a un certain nombre de sujets où les divergences se sont exacerbées avec la guerre en Ukraine, puisqu'il y a des défis sur le plan de la sécurité et de la défense, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'économie. Et donc, on a des points de vue très différents entre la France et l'Allemagne sur ces sujets-là.
Alors, ces défis, on va les prendre un par un. Le premier, c'est évidemment la défense. Il y a deux ans, juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie, Olaf Scholz a expliqué que l'Allemagne entrait dans une nouvelle ère. Qu'est-ce qu'il voulait dire ?
Oui, donc il a fait ce discours devant le Bundestag le 27 février 2022, donc 3 jours après le déclenchement de la guerre. Un discours de la Zeitenwende, donc du changement d'époque. Et donc, il considère que l'architecture de sécurité européenne en fait a volé en éclats avec cette guerre en Ukraine, et donc le monde d'hier n'est pas le même que le monde d'aujourd'hui.
Est-ce que les Français ont bien compris ce qu'il avait dit à ce moment-là?
Je pense que pour les Français, y a la prise de conscience que l'Allemagne fait face à un chamboulement. Donc, il y a vraiment une remise en question des fondamentaux de l'Allemagne, mais également des fondamentaux de l'Union européenne, en réalité, sur beaucoup de sujets. La politique commerciale ne peut plus être menée comme avant, en fait. La politique économique, le Wandel durch Handel, le changement à travers le commerce, qui a été un credo de l'Allemagne pendant longtemps, c'est quelque chose qui aujourd'hui vole en éclats avec cette guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, l'Allemagne est beaucoup plus prudente par rapport à ses partenaires commerciaux, par exemple.
Sur la question stratégique, je m'y attarde un peu. La France a longtemps eu comme objectif d'arrimer l'Allemagne à une politique de défense européenne. Mmh. Et là, l'Allemagne aujourd'hui est tentée de regarder par-dessus la France vers les États-Unis. Est-ce que c'est un bon calcul? Et quelle est l'attitude de la France par rapport à ce qu'elle peut interprété comme une défaillance par rapport au fameux couple?
Oui, alors l'Allemagne, donc au cours des 25 dernières années, a sous-investi dans l'équipement militaire et dans son outil militaire. Et donc Olaf Scholz dit qu'il va porter les dépenses en matière de défense à 2% du PIB, créer un fonds spécial de 100 milliards d'euros. On voit qu'en France, il y a des réflexions similaires avec la loi de programmation militaire. Donc il y a une vraie prise de conscience au sein de l'Europe de cette nécessité-là. Maintenant, la France soutient l'autonomie stratégique. Donc le fait de miser sur des technologies européennes, là où l'Allemagne a tendance à regarder du côté américain, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc effectivement, l'Allemagne a annoncé l'achat de 35 avions de combat F-35 après le 24 février 2022, et ça n'a pas causé un grand enthousiasme côté français. Parce qu'en parallèle, on travaille donc sur le SCAF, le système de combat aérien du futur, qui a un projet d'armement franco-allemand, et la crainte de la France, c'est que ce projet ne se réalise peut-être pas si l'Allemagne achète des avions de combat F-35.
Est-ce que la France peut faire remarquer à l'Allemagne qu'en se tournant vers les États-Unis, elle fait peut-être un mauvais calcul en cas d'élection de Donald Trump?
Oui, alors ça, c'est une crainte que les Allemands ont évidemment en tête, notamment pendant la campagne électorale en Caroline du Sud, lorsque Donald Trump disait que les alliés qui n'ont pas porté leurs dépenses en matière d'armement à 2% du PIB, eh bien, ils ne les soutiendraient pas s'ils revenaient à la Maison-Blanche, qu'ils diraient même à la Russie de les attaquer. Enfin voilà, donc ça, tout ceci, ce sont des craintes, ce sont des risques qui sont pris au sérieux en Allemagne. Et que ce soit Trump ou non qui gagne les élections, de toute façon, les États-Unis ont enclenché un pivot vers l'Indo-Pacifique. Donc de toute façon, il y a une prise de conscience qu'il va falloir s'armer à nouveau pour des raisons historiques liées à la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne ne l'a pas fait au cours des 25 dernières années, donc elle a été toujours très réticente et elle s'en est remise aux États-Unis pour sa défense et pour sa sécurité.
On va parler d'économie, Marik Pata. La France a découvert cet hiver que les Allemands pouvaient avoir des problèmes économiques et sociaux. Je caricature un peu, mais les Allemands sont capables de faire grève, les Allemands sont capables d'avoir un commerce international chamboulé par leur exposition au commerce avec la Chine notamment. Inversement, comment les Allemands regardent la situation financière et budgétaire française en ce moment ?
Je pense qu'ils sont assez inquiets quand on regarde effectivement les niveaux d'endettement ou de déficit. Donc on a des situations en matière de finances publiques qui sont très différentes, avec un endettement de 64% en Allemagne alors qu'il est à 112% en France. Donc vous savez qu'au sein du gouvernement en Allemagne, il y a les libéraux, le FDP et Christian Lindner, le ministre des Finances, qui souhaitent revenir donc au pacte de stabilité et de croissance. En Allemagne, il y a l'orthodoxie budgétaire avec le frein à la dette qui est constitutionnalisé. Donc, effectivement, on regarde ça avec beaucoup de crainte. Et dans le même temps, on est aussi conscient de ses propres limites. Et justement, ce frein à la dette est aussi remis en question par la frange de gauche du SPD, mais également par les Verts, parce qu'il s'agit aussi de financer la transition numérique et verte. Et la question est, comment va-t-on le faire si on ne s'endette pas, en réalité?
Les Français parlent de couple franco-allemand et les Allemands de moteur franco-allemand. Tout est question de culture, de sensibilité. Comment vous voyez évoluer cette relation franco-allemande, vous qui en avez fait votre spécialité?
Je pense qu'effectivement, il faut trouver un modus operandi entre la France et l'Allemagne. Alors, pendant un certain temps, juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, on a parlé du déplacement du centre de gravité vers l'Europe centrale et orientale, potentiellement. Mais je crois qu'il y a aussi une attente des pays d'Europe centrale et orientale d'un certain dynamisme ou d'un moteur qui proviendrait de la France et de l'Allemagne. Et on a vu dans le passé le Next Generation EU, donc les 750 milliards d'euros pour répondre à la Covid-19 et aux impacts socio-économiques de la Covid-19 avec un endettement commun qui était un tabou absolu jusqu'à présent pour l'Allemagne. On voit quelle est la force motrice que peut incarner la France et l'Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, il y a des pressions y compris en matière de politique intérieure des deux côtés, avec notamment une montée de l'extrême droite aussi, y compris en Allemagne, avec l'AFD qui est crédité de 30% dans les Länder de l'Est de l'Allemagne, où il va y avoir des élections régionales à l'automne, mais aussi au niveau fédéral à 20%. Donc il y a des pressions, et donc effectivement, la crainte, c'est qu'on n'a peut-être pas les moyens de s'investir autant qu'on le voudrait dans le couple franco-allemand ou le moteur franco-allemand, parce qu'on est d'abord occupé par résoudre ces problèmes en politique intérieure.
Et à préparer les élections européennes. Peut-être qu'on y verra plus clair au lendemain de ces élections européennes et que les diplomates investiront davantage cette relation pour la relancer. Marieke Pata, merci. Infiniment. Chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste des relations franco-allemandes. Merci de nous avoir éclairé sur ce que les Allemands appellent le moteur franco-allemand et ce que nous, Français, nous appelons de façon un peu romantique et sentimentale le couple. C'est ça, les différences de culture et d'approche. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse de nos esprits libres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, Maître Sophie Obadia et Jean-Marie Colombani, Radio Classique, 8h28.